Chers frères et sœurs, je constate qu'il est souvent reproché aux protestants et au protestantisme d'être un peu trop dans l'air du temps et de suivre les modes de la société et par conséquent de manquer un peu de personnalité. Parce qu'évidemment, être dans l'air du temps, suivre tranquillement le mouvement, c'est un peu avoir un destin de feuille morte, ce qui n'est pas toujours très heureux. Et si nous voulons le dire avec l'image utilisée par le rédacteur de ce passage de l'Apocalypse, eh bien nous pourrions dire qu'il semble que pour certains, les protestants et le protestantisme soient tièdes. Tiède, voire tiédasse. La question se pose de savoir si effectivement nous ne serions pas un peu tièdes. La question se pose de savoir si finalement nous ne serions pas toujours à suivre les évolutions de la société. Alors, on pourrait avoir l'impression d'être extrêmement moderne, mais avec finalement toujours un petit temps de retard. Là où d'autres chrétiens opterait plutôt pour le modèle de la contre-culture, prenant un peu systématiquement le contre-pied des évolutions de la société. À supposer que nous soyons tièdes, c'est une hypothèse de travail, cela signifierait que nous sommes à température ambiante. Et dans une certaine mesure, la critique existe, elle est légitime. Le protestant est bien infusé dans son milieu, comme le sachet de thé qui a la température de la tasse dans laquelle il a été plongé. Et il arrive parfois que le protestant soit tellement immergé dans le milieu où il est, tellement imprégné de son environnement, qu'on ne le remarque plus. Il est comme transparent. Et la question est de savoir si sa présence change encore quoi que ce soit. On peut se dire qu'il suit les fluctuations sans la moindre incidence sur les autres. Il n'est ni bouillant, ni froid, il est tiède, voire tiédasse. Et selon la rhétorique de l'Apocalypse, il est juste bon à être vomi. Alors, interrogeons un peu plus ces images caloriques pour essayer de comprendre ce dont il est question derrière cela. Essayons de comprendre finalement quel est le reproche adressé à l'église de Laodicée. Quand on est de quelqu'un qui est chaud, voire qu'il est chaud bouillant, vous voyez un peu de quoi il s'agit. C'est ce qu'on dit de quelqu'un qui est particulièrement enthousiaste. Quelqu'un qui a envie de dire oui à un projet, à une idée, à une personne, extrêmement favorable, il adhère. On va aller voir un match, ah oui, je suis chaud bouillant pour voir le match. En revanche, quand vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec une suggestion, qu'on vous propose d'aller voir, je ne sais pas, une exposition, d'aller voir quelqu'un, je ne suis pas très chaud. Parce que vous êtes bien poli, vous n'allez pas dire non, je suis froid. Pas très chaud. Les disciples qui allèrent vers le village d'Emmaüs après Pâques, en compagnie du Christ dont ils découvriraient ultimement l'identité, se disent rétrospectivement que leur cœur brûlait en chemin alors qu'il leur expliquait les Écritures. Ils étaient en train de devenir chauds, voire chauds bouillants. Et quand on comprend qu'ils devenaient chauds parce qu'ils leur expliquaient les Écritures et qu'ils allaient pouvoir reconnaître le Christ, ce sont des images religieuses pour dire qu'ils étaient en train de prêter foi à ce qu'il leur disait. Ils commençaient à dire oui à ce qu'il leur proposait. Il commençait à adhérer à une vérité qui jusque-là leur échappait. Ce qui est faux, en revanche, est tout à l'opposé dans le refuge. Celui qui est froid, c'est celui qui refuse d'adhérer à ce qu'on lui propose. Être froid indique le refus, indique l'éloignement. C'est quand on joue à Colamaillard, quand on est loin de la personne qu'il faut trouver, on dit « c'est glacé ». Plus on se rapproche, plus c'est chaud. Le tiède. Le tiède, pour sa part, n'est ni tout à fait oui, ni tout à fait non. Je ne dirais pas qu'il a un petit côté normand, avec peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Mais en tout cas, il est hésitant. Il ne sait pas. Il se sent incapable de faire le moindre choix. Et quand on est incapable de faire le moindre choix, on ne fait pas de choix, on le subit. On suit l'air du temps, on suit la majorité, on suit la voix du plus fort. Autrement dit, on ne prend pas ses responsabilités, au sens strict du terme. On n'apporte pas sa propre réponse à une situation donnée. On laisse faire les autres, on se soumet à une autorité qui parle ou qui pense à notre place. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qu'est le tiède, s'il ne fait aucun choix, nous fait comprendre ce passage biblique, c'est parce qu'il ne désire rien, qu'il n'a aucun manque, et par conséquent, il n'espère rien. Cela est tout à fait bien dit dans ce passage de l'Apocalypse. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tranquille, tout va bien. Inconscient qu'il est de sa véritable nudité, de son aveuglement, de son malheur. Cela signifie que la situation telle qu'elle est lui convient. En tous les cas, ça ne le dérange pas. C'est assez satisfaisant. Après tout, il n'y a plus malheur ailleurs. S'il avait le moindre désir, s'il éprouvait le moindre manque, il émettrait un mot d'adhésion, une inclination. Il exprimerait ce qu'il souhaite. Peut-être le ferait-il de manière négative, en disant ce qu'il refuse, en disant ce qu'il rejette. Après tout, c'est ce que fait le psalmiste régulièrement. Il se plaint, il se lamente, disant en creux ce qu'il espère. Un autre ordre du monde, où l'injustice a été éradiquée, où on n'est plus oppressé par les adversaires. Celui qui ne veut surtout pas que quoi que ce soit arrive, fait en sorte que cela ne vienne pas. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de ne rien faire, ne pas bouger. Celui qui est froid, au contraire, mettra éventuellement des freins, des obstacles, pour éviter que quelque chose arrive. Parce qu'il ne veut pas que ça change. Celui qui est tiède se contentera de laisser faire. Le tiède est celui qui n'a pas de désir, pas de besoin. Et du coup, il n'offre aucune variété, aucun écart. Il est effectivement comme transparent, indifférent. Il serait là, il ne serait pas là, ça ne changerait pas grand-chose. Et voilà pourquoi il est à vomir. Parce qu'en fait, il crée une sorte de barrière étanche entre lui et le reste du monde. Entre lui et le reste de la vie. Au fond, il n'a pas besoin des autres. Et du coup, par conséquence, les autres ne peuvent plus avoir besoin de lui. Et le thème du vomissement est juste une image qui illustre cela. Quand on n'a pas besoin des autres, quand on n'a aucun désir à l'endroit des autres, alors on rejette les autres, en fait. Une sorte de protectionnisme qui vomit, pour le dire avec un langage un peu cru, celui de l'Apocalypse. Le vomissement, c'est la suite logique de cette attitude qui consiste à se suffire à soi-même. Sommes-nous tièdes? Il n'est pas impossible que nous nous suffisions un peu nous-mêmes parfois, quand même. Y a-t-il du salut en dehors du protestantisme? De notre protestantisme? Sur le papier, Il y a dans la foi chrétienne un élément central. Cet élément central, c'est l'altérité. C'est l'autre. La foi chrétienne s'organise autour d'un autre que soi et autour d'autres paroles que nos propres paroles. La foi chrétienne s'organise autour d'une vision de l'humanité qui n'est pas notre propre vision. La foi chrétienne est pour chacun, dès le départ, un décentrement. Ne serait-ce que de dire avec les réformateurs « à Dieu seul la gloire » laisse bien entendre qu'il y a un autre que nous dans la partie. Peu importe ce que nous mettions derrière Dieu, mais déjà, dire Dieu, c'est dire un autre que nous-mêmes. Et c'est cela qui est structurant dans la foi chrétienne. Le fait que nous continuions à parcourir les textes bibliques, quelle que soit l'interprétation que nous en faisons, indique qu'il y a bien une autre parole que la nôtre qui est structurante dans notre vie. Moi, je serais incapable de prêcher sans avoir lu un texte biblique avant. Mais le fait de continuer à lire un texte biblique permet d'injecter dans notre compréhension de la vie et du monde une autre compréhension, une autre vision que celle que nous avons. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une pure subjectivité. Nous sommes au moins dans une intersubjectivité. Nous sommes dans le dialogue avec d'autres que nous, des gens qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas le centre du monde. Voilà ce qu'est la foi chrétienne, pour le dire un peu de façon résumée. Mais la foi chrétienne dit plus que cela. Nous ne sommes pas notre propre centre de gravité. Pour savoir qui nous sommes, nous avons besoin d'en passer par d'autres que nous-mêmes. Nous n'existons pas par nous-mêmes, ni pour nous-mêmes d'ailleurs. En tout cas, ça c'est en théorie. En théorie, Dieu désigne cet écart que nous avons à essayer de parcourir pour nous humaniser. Il arrive cependant que nous ne vivions pas en théorie. Et que nous nous satisfassions de cet état, et même que nous soyons très contents de notre situation, sans éprouver le moindre besoin de changer quoi que ce soit. Assis sur son tas d'or, Laodicée meurt. Dans une certaine mesure, notre chance est de ne plus avoir de tas d'or à Montpellier. Et vous savez qu'il peut y avoir des tas d'or symboliques. On peut s'installer sur une histoire, par exemple, et faire de cette histoire un patrimoine que l'on considère comme suffisant. Mais on peut aussi s'installer sur une sorte de position, une sorte de notoriété, une rente de situation. Quand on a un temple aussi bien placé dans Montpellier, on peut se dire que ça y est, tout est fait. La critique qui est faite à Laodicée est de considérer que dans une certaine mesure, elle n'a plus besoin de rien, qu'elle a fait l'essentiel, que c'est gagné. Alors oui, c'est gagné, pour peu qu'elle ne s'installe pas, pour peu qu'elle n'éteigne pas son désir, pour peu qu'elle n'étouffe pas ses velléités d'un règne de justice, de paix et d'amour qui s'approche encore un peu plus. L'idée, me semble-t-il, qui traverse cette lettre à Laodicée, est que Laodicée est devenue décadente. Au sens strict du terme, là encore, ça signifie qu'elle ne donne plus la cadence. Elle n'imprime plus de rythme. Elle suit. Elle ne fait que suivre, alors qu'elle était censée donner le rythme, donner la cadence, donner le mouvement. Elle n'imprime plus aucun rythme de vie. Elle ne réinjecte plus cette richesse divine dans son quotidien. Elle se contente de vivre sur son capital. Et cela nous arrive à chaque fois que nous nous reposons sur nos lauriers. À chaque fois que nous nous reposons sur notre passé, sur nos biens matériels, sur notre intelligence, sur notre haute opinion de nous-mêmes, sans prendre le besoin d'injecter un peu d'altérité. Prenons un exemple. Les états généraux de la bioéthique viennent de s'ouvrir. Il y sera question, notamment, du début de la vie, avec des questions assez importantes comme l'aide médicale à la procréation. Il y a finalement deux grandes attitudes possibles vis-à-vis de ce chantier qui s'ouvre. La première attitude consisterait à dire « Bon, ça c'est des questions qui ont déjà été traitées, donc voilà nos réponses. » C'est une éthique de principe, des principes valables en tout temps, en tout lieu, pour quiconque. Et puis il y a une autre manière d'envisager ces questions, c'est la situation d'éthique de responsabilité, c'est de considérer que chaque situation doit être toujours pensée à nouveau frais. Il faut prendre en compte les évolutions scientifiques, mais aussi notre compréhension de ce qu'est l'humanité et qui se précise au fil des années, au fil des siècles. Pensez ce qu'il est souhaitable de faire sur ces questions de bioéthique, par exemple, sans prendre en compte le progrès technique, serait fort contestable, mais dans une perspective chrétienne. Pensez ce qu'il serait souhaitable de faire en se contentant de l'avis qui avait été formulé 50 ans ou 100 ans auparavant. C'est quand même un peu de la folie. Songeons qu'il y a 50 ans, personne n'imaginait sérieusement que l'on pourrait, par exemple, participer à la procréation sans envisager de rapport sexuel. Disons une centaine d'années, 50 ans encore, c'est négociable. Comment ne pas tenir compte de ces évolutions techniques sans présager des réponses que nous donnerons à ces évolutions? Il en va de même pour l'usage que nous faisons des textes bibliques. Ce que nous comprenons à travers les textes bibliques est-il semblable à ce que nos anciens comprenaient 100 ans auparavant? Est-ce que ce que Dieu désigne aujourd'hui désigne vraiment ce que Dieu désignait 100 ans auparavant? Je ne sais pas exactement pour vous, mais ne serait-ce que pour moi, en 20 ans, les choses ont pu considérablement évoluer. J'espère que votre Dieu n'est pas le Dieu de votre enfance, ni même de votre adolescence. Il y a de l'altérité dans la foi chrétienne. Il y a une altérité irréductible. Et bien cette altérité, le livre de l'Apocalypse dit qu'elle se présente à nous, aussi bien par les découvertes que nous faisons que par ce qu'il y a encore à découvrir et que nous ne faisons pour l'heure qu'intuitionner. La nouveauté de la science doit être prise en compte, de même que la vérité de l'être humain vers laquelle les textes bibliques nous renvoient, sans jamais la posséder totalement. Vous voyez, il y a cette expression religieuse un peu curieuse, placer une situation devant Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, placer une situation devant Dieu? Eh bien, il se pourrait que ce soit penser un sujet, par exemple l'aide médicale à la procréation, en prenant en compte ce que les textes bibliques nous font espérer, et pas simplement ce qu'on nous en a dit par le passé. Ce que les textes bibliques nous font espérer, de manière à ce que nous puissions ensuite développer par nous-mêmes l'attitude la plus adaptée et la plus appropriée pour le temps présent. La Bible, évidemment, ne s'exprime pas sur l'aide médicale à la procréation, comme elle ne s'exprime pas sur l'utilisation du nucléaire. Le texte biblique, les textes bibliques, nous aident à imaginer ce vers quoi notre humanité est appelée à progresser. Non pas en termes de technicité, mais en termes de qualité d'être, en termes de qualité de relation, en termes de qualité de développement de nos aptitudes personnelles. Si nous laissons courir, si nous ne nous impliquons pas dans les débats, si nous ne souhaitons pas prendre notre part à la réflexion, c'est que nous n'avons aucun désir à ce sujet, que nous ne sommes pas prêts à accueillir quoi que ce soit dans ce domaine. Et par conséquent, cela dit juste notre tiédeur. Alors, sommes-nous tièdes? Les protestants sont-ils tièdes aujourd'hui? Nous avons évoqué les questions théoriques avec la foi qui donne une place centrale à l'altérité et qui nous permet de reprendre à nouveau frais les questions qui ont pu être traitées autrefois, les questions essentielles de notre existence. Eh bien, la question est de savoir si nous considérons que les réponses ont été écrites une fois pour toutes dans le marbre et qu'il suffira de relire ce qui a été écrit autrefois, ou alors si nous devons nous-mêmes prendre le temps de la réflexion et écrire une nouvelle page de l'histoire. Au fond, nous pouvons déjà commencer par considérer que les questions d'aujourd'hui valent mieux que les réponses d'autrefois. Et puis, peut-être pouvons-nous nous dire que ça va bien comme ça. On peut être un peu fatigué de faire le protestant, qui, comme le disait Umberto Eco, est toujours enfermé dans son obsession intérieure qui consiste à interpréter chaque chose et lui donner du sens à un moment donné. On est un peu fatigué de donner du sens à tout. Mais dans ce cas, écoutons un peu ce que nous dit le texte biblique. Et le texte biblique nous dit qu'il y a l'Amen qui vient frapper à notre porte. L'Amen qui vient frapper à notre porte. Qu'est-ce que signifie cet Amen ? La traduction grecque de la Septante dit que l'Amen, c'est le nom de Dieu. Et c'est traduit par anétinon. Ça veut dire ce qui est vrai. Pas simplement la vérité, mais l'exigence de la vérité, la recherche de la vérité. Ce qui permettrait d'atteindre un niveau supérieur de vérité. Et bien, ce que dit ce texte, et c'est que la vérité ne vient pas nous frapper directement, elle vient frapper à notre porte. Elle ne s'impose pas de manière brutale, elle frappe à notre porte, et nous sommes libres de lui faire bon accueil ou non. La formule religieuse, c'est que Dieu frappe à notre porte, pour entrer dans une relation positive. Eh bien, parce que le nom de Dieu, c'est l'Amen, ce qui désigne la vérité, cela nous aide à comprendre que la vérité est extérieure à nous. Elle ne nous est pas donnée d'emblée. La vérité est à accueillir. La vérité n'est pas en nous de toute éternité, dit le texte. Ce principe de création est extérieur à nous. Il faut que nous ouvrions notre porte, il faut que nous fassions accueil et bon accueil à ce caractère étrange, voire étranger de la vérité, et que nous entrions en communion pour nous nourrir les uns et les autres. La vérité n'est pas là d'emblée. Elle vient. Alors, la question à laquelle je ne répondrai pas à votre place, c'est en fait la question de savoir si nous sommes tièdes ou pas. Parce que c'est à chacun de se déterminer en son âme et conscience. S'agit-il d'être tiède, froid ou chaud bouillon? La question est en fait de savoir si les questions qui se posent sont effectivement des questions essentielles, déterminantes. Des questions tellement importantes qu'on ne peut pas laisser les autres répondre à notre place. Si ce sont des questions secondaires, si ce sont des questions sans conséquence, alors oui, certainement, nous pouvons ne pas nous y intéresser. Mais si nous estimons que ce sont des questions vraiment décisives, alors, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être froid ou bouillant. Sans quoi cela signifie que la vie nous vomira. Que les choses vraiment essentielles s'éloigneront un peu plus de nous. Alors, Il ne s'agit pas d'être champion dans tous les domaines. Laodicée est l'exemple typique d'une explication sur laquelle le regret, c'est de n'être ni chaud ni bouillant. Chaud ou bouillant, ça va, mais tiède ou tiède, ça ne va pas. Par la foi, nous pouvons être froids à l'égard de ce que nous estimons être opposé à l'espérance que Dieu forme. Bouillant nous pouvons l'être dès lors que nous estimons que telle situation est propice pour mettre quelques couleurs de l'ordre de l'Évangile dans notre existence. Amen.